prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, le cordon écarlate.
Je vais le lire d'abord et puis ensuite nous y apporterons quelques mots de commentaires pour nous aider à comprendre, pour nous amener à réaliser la puissance de la foi qui sauve. Voilà, hein, ça sera le thème de notre méditation. Alors pour ce faire, nous allons ouvrir dans l'Ancien Testament un livre que l'on appelle le livre de Josué. Livre de Josué au chapitre 2 et nous allons parler d'une histoire tout à fait particulière, parce qu'il s'agit du salut d'une femme, mais à travers des circonstances et des conditions tout à fait, on pourrait dire peut-être rocambolesques, si vous voulez, si vous me permettez ce terme. Alors on va découvrir cela, donc livre de Josué, chapitre 2 et verset 1er, hein, il y a donc un chapitre à prendre en considération. Josué, verset 1er, Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant « Allez, examinez le pays et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici, cette nuit, pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. » Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain, et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Et elle fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour, et après, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici, de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre, par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si l'on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Et elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent, et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent, et ils arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient soient de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent dans toute la région, mais ne les trouvèrent pas. Les deux hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, « Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Voilà pour tout simplement la situation biblique, à nous remettre un peu dans le contexte de cette histoire. Une histoire quand même assez particulière, parce que elle met en présence des personnages assez étonnants, hein, dont nous allons faire connaissance d'ici quelques instants. On sait que Moïse est mort au moment où nous ouvrons ce livre de Josué, et c'est son serviteur, le jeune Josué, qui va avoir la lourde charge, eh bien, d'être le guide du peuple, le guide des Hébreux, pour conquérir le pays de Canaan, rentrer dans le pays que Dieu leur avait promis et qui est naturellement réputé pour être le pays où coule le lait et le miel, Israël d'aujourd'hui, si vous voulez. Alors, Josué s'est préparé donc à faire la conquête de ce pays. Alors, il a fait partir secrètement de l'endroit où il se trouvait, donc la ville de Sittim, il a fait partir 2 espions et il leur a donné mandat, tout simplement, d'aller, de regarder, d'examiner le pays, et en particulier, cette ville, une ville redoutable, une ville, nous pourrions dire forteresse, qui s'appelle Jéricho. Parce que les Hébreux étaient du côté du Jourdain, il fallait rentrer, naturellement, en se dirigeant vers l'ouest, pour rentrer dans le pays de Canaan, mais il y avait cette forteresse qui barrait la route. D'ailleurs, la présentation de la ville de Jéricho, au chapitre 6, toujours du livre de Josué, nous est dit que la ville de Jéricho était barricadée et bardée de fer. Donc, les assaillants ne pouvaient pas passer. C'était quelque chose d'impossible tellement, eh bien, c'était un verrou de sûreté, on peut dire, et il y avait vraiment très peu de chance pour pouvoir finalement passer d'un endroit à un autre, en tous les cas, des armées, hein, parce que c'était une ville de commerce, c'était une ville où il y avait beaucoup d'activités à Jéricho, mais en tous les cas, faire la conquête de ce qui était à l'ouest de Jéricho, c'était impossible avec une armée, parce que c'était une ville qui était un bastion de défense de tout le pays après. Alors, ces espions sont partis, et voyez-vous que dans le texte, il nous est dit qu'ils sont arrivés incognito, ils ne se sont pas dit que c'était des espions d'Israël, hein, mais se sont tout simplement fondus dans la foule, et ils sont arrivés dans une maison de prostituées, une maison donc d'une courtisane, et elle se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Alors ils auraient pu peut-être aller autre part, mais dans une maison comme cela, douteuse, de mauvaise réputation, où les hommes allaient sans se faire voir, c'était peut-être l'endroit qui pouvait leur convenir, en passant incognito. Hein. Je voudrais quand même vous dire, ce n'était pas pour la personne elle-même, c'était tout simplement pour remplir leur mission. Et on comprend qu'ils ont choisi donc ce lieu. Et la femme qui tenait cette maison et ses activités, puisqu'on le sait maintenant, elle s'appelait Rahab. Rahab, c'est une cananéenne, hein, c'est une païenne. Hein, et son nom veut dire spacieuse. Alors, il y a quand même quelque chose de prémonitoire dans son nom, parce que c'est vrai qu'elle va faire l'expérience de la découverte du Dieu d'Israël d'une façon extraordinaire, miraculeuse. Et comme son nom veut dire spacieuse, non seulement elle va être mise au large, mais elle va permettre à toute sa famille d'être mise au large et d'échapper finalement aux assaillants, d'échapper à la mort. Et nous croyons qu'elle porte son nom tout à fait justement. Alors ces hommes donc, sont entrés dans cette maison, incognito, ils se sont couchés tout simplement, mais certainement dans le milieu de la nuit, eh bien, on est venu informer le roi de Jéricho. Et on lui a dit ceci tout simplement, il y a des espions d'Israël qui sont rentrés comme cela dans notre ville, qui sont au milieu de nous, et nous savons même où ils sont. Hein. Ils sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Donc, le roi de Jéricho avait mis certainement eh bien, des agents pour savoir ce qui pouvait se passer donc, dans le contexte de sa ville. Et il a même su où se trouvaient les deux hommes. Donc ils étaient pris en filature hein, dès le départ. Eux ne le savaient pas, mais ils étaient pris en filature. Et ils se sont aperçus qu'ils avaient élu domicile chez Rahab, tout simplement la prostituée. Alors il va lui donner l'ordre de lui, tout simplement, de faire sortir ces hommes qui sont venus chez toi et qui sont entrés dans ta maison. Et il va lui dire tout simplement, eh bien c'est tout simplement parce qu'ils viennent explorer le pays pour ensuite nous faire la guerre et nous vaincre. Hein, et toute la nation va s'effondrer. Hein, parce que on va le voir d'ici quelques instants, Israël a une réputation redoutable. Non pas parce que c'est un peuple guerrier, c'est un peuple de soldats, c'est un peuple aguerri pour la guerre, fait pour la guerre, mais parce qu'il y a avec Israël, eh bien leur Dieu qui est un Dieu tout-puissant. On le reverra d'ici quelques instants. Alors la femme a pris ces deux hommes. Quand elle a entendu la menace que ces espions étaient poursuivis, et elle les a cachés. Et elle leur a dit ceci, tout simplement à ceux qui étaient venus, les émissaires du roi de Jéricho. Et elle leur a dit, mais c'est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi. Elle devait avoir l'habitude, hein, quoi qu'il en soit. Mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et elle ajoutera, et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis et j'ignore où ils sont. Alors hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Alors je voudrais quand même signaler quelque chose. C'est qu'il faut considérer la chose de cette manière. La Bible nous met en garde contre le mensonge. On est d'accord. On s'aperçoit que dans le cas qui nous intéresse, cette femme va mentir. Ouais. C'est quand même assez étonnant. Maintenant, une chose qui est certaine, c'est que nous n'avons pas à une enfant de Dieu, une fille d'Israël qui a reçu les principes de Dieu, mais une païenne. Et elle va faire, elle va parler en païenne qu'elle est, en quelque sorte. Et elle va, quelque part, induire en erreur les hommes de son pays, c'est-à-dire le roi de Jéricho, et puis également, finalement, tous les soldats qui sont mobilisés pour rattraper ces deux espions. Alors, il faut bien considérer qu'il y a là, naturellement, c'est vrai, quelque chose qui peut être choquant pour le lecteur de la Bible en disant « Mais elle ment !» Elle ment. Mais d'un autre côté, on a affaire à une païenne. Parce que d'ici quelque temps, elle ne sera plus une païenne. Elle va devenir une véritable fille d'Israël, avec tout ce que cela implique de vérité, de justice et de droiture. Là, on en est là. Maintenant, ce que la Bible relève, c'est pas son mensonge. C'est la foi qui va venir derrière. Et je crois que nous avons déjà cette image que avant de connaître Dieu, avant de posséder la foi dans notre cœur, eh bien, nous étions comme Rahab, parfois des menteurs, ou des gens qui avaient toutes sortes de turpitudes et toutes sortes de choses, ce qui montre bien que venir à Dieu, il y a nécessairement un avant et un après. Et au niveau de notre morale, au niveau de notre mentalité, au niveau de notre moralité. Alors, je voulais faire cette petite parenthèse parce que, quelquefois, certains ont pu dire, mais vous vous rendez compte, dans la Bible, il y a des choses pareilles. Oh, il y a ça, et il y en a bien d'autres. Je voudrais vous le dire. Parce que, en tous les cas, si Dieu est saint, les hommes ne le sont pas. Alors, une chose, cela nous est... Alors, elle les a fait monter sur le toit, nous raconte le récit, nous rapporte le récit, et elle les a cachés sous des tiges de lin, elle les a cachés sous des fagots, en quelque sorte. Alors là, nos braves nos braves espions étaient là et ils ne devaient peut-être pas emmener très large, parce qu'ils savaient qu'ils étaient poursuivis. Il y avait même en dessous, dans la maison en bas, dans l'étage en dessous, il y avait des soldats qui étaient en train de les chercher. Alors, ça s'est passé comme ça, et ces hommes, donc, les ont poursuivis, comme Rahab leur a dit, vous sortez de la ville et puis vous les courez dans les montagnes, parce qu'ils doivent être partis dans la montagne. Alors, c'est ce qui s'est passé, ils les ont poursuivis par le chemin qui mène au guide Jourdain, et après on a fermé les portes de la ville. Comme ça, personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir, mais les soldats étaient partis à l'extérieur pour, en pensant que les espions étaient partis donc aux environs pour se cacher et sauver leur vie quelque part. Quand on sait que dans la région de Jéricho, il y a plein de montagnes et il y a beaucoup de grottes, c'est une constatation géographique. Alors, les gens qui habitaient Jéricho savaient très bien qu'ils allaient les retrouver à un moment ou à un autre, soit cachés dans une caverne ou quelque chose comme ça. Et voilà que les choses nous sont présentées d'une autre, se prolongent, et nous avons vu tout à l'heure, il nous est dit qu'avant que les espions se couchent, parce qu'ils étaient toujours eux dans la ville, pendant que les autres les cherchaient à l'extérieur, Rahab à ce moment-là est montée vers eux sur le toit, et elle leur a dit ceci. Et c'est intéressant ce qu'elle leur a dit. Parce que nous allons voir que dans la vie de cette femme, dans le cœur de cette femme, c'est une personne qui ne connaît pas le Dieu d'Israël, mais néanmoins, il y a quelque chose qui est en préparation. Alors, on va leur dire ceci. Elle dira « l'Éternel ». Alors, c'est déjà quelque chose. Parce que quand on connaît tout le polythéisme des Cananéens, un dieu par ici, un dieu par là, et ceci et cela, elle va dire « l'Éternel ». « Je le sais, vous a donné ce pays ». Elle confesse déjà la victoire d'Israël sur la ville de Jéricho. Comment le savait-elle? Alors on va le découvrir. Comment pouvait-elle avoir ces informations? Elle ne savait pas grand-chose, mais ce qu'elle savait, elle le croyait. Ça fait peut-être une différence avec beaucoup de gens qui savent des choses et qui ne le croient pas. Dans notre monde d'aujourd'hui. Mais toujours est-il que, eh bien, elle va employer les bons mots. Elle va confesser, elle va donner la bonne confession. Elle dira, mais je le sais, votre Dieu, le pays que nous occupons, nous les Cananéens, eh bien, c'est un pays qui ne nous appartiendra plus bientôt, parce que Dieu vous a envoyé pour que vous en preniez possession, et ça sera à toujours votre pays. Il l'est encore aujourd'hui. Tant bien que mal, mais il y est encore. Alors, elle ajoutera cette parole, « La terreur que vous nous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. » Alors pour les espions, recueillir ce genre d'informations, ça valait mieux que de regarder toutes les défenses de la ville et de voir un petit peu ce qui s'y passait. Parce que quelque part, ils vont recevoir ce qu'ils étaient venus chercher, ils vont le recevoir d'une manière inespérée. Ils vont apprendre, les espions d'Israël vont apprendre que dans la ville de Jéricho, qui est pourtant une forteresse où il y a une garnison de soldats, mais très vaillants, très forts, il y a là de puissantes murailles, une puissante défense. Mais que on peut avoir tout ça. On peut avoir des armes, on peut avoir des murs, on peut avoir des soldats en quantité et tout ce que vous voudrez. Si psychologiquement les gens ont peur, eh bien c'est déjà fini. C'est comme ça les combats et dans le monde aussi. C'est pour ça que dans les armées du monde, psychologiquement, on prépare les gens. On ne les envoie pas en disant « vous savez, on va y aller, mais on a déjà perdu. » Même si on sait qu'on ne va pas gagner la guerre, on les gonfle à bloc, excusez-moi l'expression, pour que psychologiquement, ils arrivent à se dépasser. Ils arrivent à faire la démonstration d'un courage. Le courage du vainqueur, en quelque sorte. Alors, ils vont l'apprendre. Ils vont apprendre tout simplement de cette femme. Ils vont dire « mais ce que nous savons de vous, vous, le peuple de Dieu, dont l'Éternel est votre Dieu, eh bien, ce que nous avons su, ce que nous avons appris, mais ça nous donne la terreur, ça crée un effroi terrible au milieu de nous. Et nous tremblons. » Alors, vous savez, la foi, je le répète et je le redis, c'est le contraire de la peur. Et quand on a peur, on n'a pas la foi. Or, cette femme savait que tout le monde tremblait autour d'elle, mais elle avait la foi, elle n'avait pas peur. Parce que si elle avait peur, elle n'aurait rien dit aux espions. Elle n'aurait rien fait. Donc elle fait la démonstration déjà de la foi, de sa foi au fond de son cœur. Et elle ajoute ceci, à l'intention des espions, elle dira, mais car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Ah oui, ça c'était quelque chose. Mais ce n'était pas d'aujourd'hui ça. C'était une histoire qui était déjà vieille de 40 ans. Parce que les Hébreux étaient déjà sortis depuis 40 ans de l'Égypte. Ils avaient échappé à la main d'un pharaon qui était certainement l'homme le plus puissant de la terre connue d'alors. Un peuple qui s'était libéré de ses chaînes, 2 millions de personnes qui s'étaient libérées et qui avaient échappé entre les mains de l'homme le plus puissant, de l'empire le plus puissant qui était l'Égypte à l'époque. Et comment Dieu les a sauvés? En leur faisant traverser à pied sec la mer Rouge. Et ça s'était répandu. Cette nouvelle, qui était déjà vieille de 4 décennies, ça s'était répandu dans tout le monde connu d'alors. Et les gens disaient, mais si ces Hébreux sont sortis à main levée d'Égypte, s'ils ont traversé la mer Rouge, alors leur Dieu est un Dieu tout-puissant. Leur Dieu est vraiment le Dieu du ciel et de la terre, et nous ne pourrons rien faire. Alors, ça avait marqué les esprits. Et certainement que dans le climat des pays de l'époque, la géographie politique, comme on dit aujourd'hui, de l'époque, tous les pays disaient, mais pourvu qu'ils ne viennent pas chez nous, parce qu'ils vont nous écraser. Mais ils avaient tourné pendant 40 ans dans le désert. Ça avait calmé un petit peu le jeu. Mais ils avaient calmé 40 ans, pendant 40 ans, c'est que finalement, ils avaient appris la marche par la foi aussi pendant ce temps-là. Ouais. Ils avaient appris. Et puis, les nations étaient restées pendant 40 années en disant, pourvu qu'ils n'arrivent pas dans notre pays parce qu'ils vont nous détruire. Mais ça préparait aussi les esprits de toutes ces nations en disant, mais le jour où ils vont arriver, ils vont être... Ça va être terminé pour nous. Ils vont arriver encore beaucoup plus fort qu'ils ne l'étaient il y a 40 ans auparavant. Alors voilà, les choses sont dites par cette femme. Et les espions l'entendent. Et pour eux, ça leur donne confirmation que c'est le temps de Dieu. Et ils l'entendent même de la bouche de leurs propres ennemis. C'est leurs propres ennemis dont la femme est l'interprète de ce qui va se passer. Nous l'avons appris, dira-t-elle, et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Pourtant, Israël était un peuple. Ce n'était pas un peuple guerrier, je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'était pas un peuple d'armée. C'était un peuple d'esclaves. C'est ça, justement. Hein. C'est un petit peu David contre Goliath, si vous voulez. Ouais. Mais même si ce peuple était un peuple d'esclaves, il y avait quelqu'un qui était avec eux. Et ça, c'était ce qui faisait la différence. C'est ce qui faisait toute la différence. Alors ils diront, mais nous avons perdu courage. Mais ils disent aussi quelque chose qui est intéressant, parce que c'est écrit dans le texte, il me permet de le souligner dans le commentaire biblique que nous faisons ce soir. Mais il dira, mais nos esprits sont abattus. Alors il y avait certainement l'esprit des hommes qui était abattu par la connaissance de l'histoire d'Israël, par la connaissance des hauts faits de Dieu en faveur d'Israël. Mais moi je crois qu'il y avait aussi les esprits qui étaient abattus, mais les esprits au sens de toute cette relation culte que ces peuples de Canaan, que les habitants de Jéricho, que tous ces gens entretenaient avec ce, comme on l'a dit, ce polythéisme, avec cette idolâtrie, avec cet occultisme, cette magie, avec toutes ces choses qui les mettaient en relation avec des esprits mauvais, des esprits méchants, des esprits diaboliques, des esprits démoniaques, qui jusqu'alors leur donnaient certainement la force et leur donnaient d'être certainement très orgueilleux de leur force et surtout d'avoir une citadelle comme Jéricho qui était imprenable. Ben vous savez que derrière les hommes, même les plus forts, soit il y a le Seigneur, ou alors il y a celui qui les manipule, celui qui les conduit à la mort, celui qui les remplit d'orgueil et qui les trompe. Mais le résultat est toujours le même, c'est la destruction. C'est l'un ou l'autre. Et quand il est dit que les esprits, tout simplement dans le texte, car tous nos esprits sont abattus, c'est qu'ils pouvaient bien, à ce moment-là, faire des incantations, faire toutes sortes de cultes occultes, permettez-moi de le dire, ça ne servait plus à rien, parce que finalement, Dieu était au milieu du peuple d'Israël, et il allait passer comme un rouleau compresseur, et tout simplement, tout ça allait être balayé. d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, je vous dirais franchement, si vous connaissez bien votre Bible et vous la connaissez, c'est que Dieu avait envoyé à Israël pour nettoyer le pays de Canaan de toutes ces abominations occultes. C'est ça le but. On le sait de par les livres de la Bible. Alors, nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est le Dieu d'en haut, des cieux, et il est Dieu aussi en bas sur la terre, en haut et en bas. Et ça, c'était certainement une formidable, encore une fois de plus, je le répète, une formidable confession. Alors, en poursuivant, nous nous apercevons qu'elle dira, « Jurez-moi par l'Éternel ». Elle va supplier ces hommes parce qu'elle est, elle les sait vainqueurs en devenir. Ils vont être les vainqueurs de la ville de Jéricho. Ils vont être les vainqueurs de tout l'ensemble du pays de Canaan d'ici quelques jours, d'ici quelques temps. Alors elle dira, elle va supplier, jurez-moi par l'Éternel. Elle ne jure pas par ses dieux, hein. Elle jure par les dieux de ses ennemis, les dieux donc d'Israël, que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Vous savez ce qu'elle fait cette femme ? En sachant que la partie est perdue pour sa nation, pour Jéricho, pour son peuple, en sachant que il n'y a plus rien à espérer de ce côté-là, elle demande grâce. Ouais. Et vous savez, quand on demande grâce, eh bien on obtient la grâce. Quand on refuse de demander la grâce, c'est qu'il y a quelque chose qui nous retient de plaider. C'est l'orgueil. C'est l'illusion, c'est l'arrogance. Ouais. Et elle, on voit qu'elle a cette qualité, c'est qu'elle est suffisamment humble, suffisamment modeste pour dire, eh bien, je sais que de toute façon, il n'y a rien à faire. Qui pourra lutter contre le Dieu des Hébreux ? Qui pourra lutter contre le Dieu d'Israël ? Il est en haut et en bas, il est souverain sur toutes choses. Alors, elle prend conscience de ça, et elle demande, finalement, bien qu'on lui fasse grâce de sa vie, elle et pour elle et pour sa famille. Usez de bonté comme moi j'ai usé de bonté pour vous. Vous savez, il y a des choses qui préparent à la foi. C'est la bienveillance. Il y a des qualités comme ça qui sont dans le cœur de l'homme et qui préparent l'œuvre de Dieu. Oui. Elle n'a pas été malveillante. Certes, aux yeux de son peuple, c'est une traite. Hein. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Hein. On peut dire que c'est une vendue. C'est un mot très fort hein, pour dire ça. Mais qu'est-ce qui faisait attention ? Qui pourrait faire attention encore une pauvre femme dépravée parce que c'était une prostituée ? Est-ce qu'elle était encore une femme ? Pour les autres, hein, pour eux. Alors, elle n'avait rien à perdre, hein, quelque part. Parce qu'on l'avait tellement méprisée, tellement rejetée, qu'elle n'avait plus rien à perdre. Alors, elle dira, elle plaira, « Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. » Ouais, que vous nous sauverez de la mort. Vous savez, ça, c'est un cri. C'est un cri pathétique. Sauvez-nous de la mort. Et je crois que c'est le cri de tout homme, de toute femme, de tout pécheur, qui prend conscience de sa culpabilité, qui touche du doigt, en un éclair, en un instant, par une conviction intérieure, qu'il est dans un état de perdition, donc qu'il est perdu, et que sans une intervention de grâce, eh bien, il va aller à la mort. Vous savez, on pourrait le reconfigurer dans notre temps aujourd'hui. Hein. On pourrait le remettre dans notre contexte, dans notre monde d'aujourd'hui. Mais qui prend conscience encore dans tous les événements ? Les choses parlent fort hein, aujourd'hui. Hein. Les guerres, les tsunamis, les tremblements de terre, les incendies, les inondations, toutes sortes de choses. Et qui prend conscience que finalement, comme les habitants de Jéricho, imbus de leur force parce qu'ils étaient dans une citadelle, qui pouvait prendre conscience qu'ils étaient perdus ? Cette femme a pris conscience de sa perdition et elle a dit, « Eh bien, moi, je ne veux pas mourir. Je veux vivre. » Mais vous qui êtes les plus forts, vous qui connaissez le Dieu qui sauve, alors faites en sorte que je sois sauvé aussi avec vous. C'est le message de l'Évangile ou non ? Bien sûr que c'est ça. En résumé. Alors les hommes vont, les espions, les deux espions dont nous avons parlé tout à l'heure, vont dire ceci. Nous sommes prêts à mourir pour vous. C'est bien, hein? Ouais. Mais vous savez, il y en a un qui a dit ça depuis toujours, hein? Depuis l'écrasement de l'homme dans le jardin d'Éden. Vous savez comment il s'appelle? Il a toujours dit, mais je suis prêt à mourir pour les hommes. Et il l'a fait. Il n'a pas fait que de le dire. Toutes les paroles de l'Ancien Testament jusqu'à la venue de Jésus nous proclament la préparation d'un salut et d'un sauveur qui a été jusqu'au bout, même à l'ultime moment, a pu dire, eh bien, tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ce n'était pas pour lui qui mourait, c'était pour chacun d'entre nous. Je suis prêt à mourir pour toi, pour vous. Nous sommes prêts à mourir pour vous, à une condition. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel donnera le pays, vous voyez, ils avaient la foi, hein, les espions, ils étaient convaincus, quand l'Éternel nous donnera le pays, lorsque nos pieds fouleront nos armées, eh bien, fouleront les pieds de Jéricho et du pays, eh bien, ce sera à nous. Alors, à ce moment-là, nous penserons à toi, nous nous souviendrons de toi et de ta famille, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Alors, elle les a fait descendre, par une corde, par la fenêtre. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un de Paul à Damas, hein, dans le livre des Actes? On s'en souvient de ça. Hein, oui, il y a toujours des choses assez rocambolesques, comme je vous disais tout à l'heure. Car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Alors une maison de prostituée, c'était toujours une maison, on arrivait dans l'obscurité au crépuscule, et quand il y avait peut-être des problèmes, on passait par-dessus la muraille, on s'en allait vite fait pour ne pas être vu. Hein. C'est pour ça qu'elle se trouvait là, probablement, entre autres. Mais bon, c'est un détail. Et elle leur a dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour, et après cela, vous suivrez votre chemin. Vous ferez ce que vous aurez à faire. Vous irez voir, eh bien là, votre peuple, et vous leur direz ce que je vous ai dit. Que finalement, la guerre, elle est déjà gagnée. La bataille est perdue pour nous, et pour vous, c'est la victoire. Mais il va y avoir une condition. Ces hommes lui ont répondu ceci, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, alors c'est toute l'armée, hein, tout le peuple d'Israël quand il va rentrer dans le pays, quand il va passer Jéricho, mais à un moment donné il va se buter contre Jéricho parce qu'on ne peut pas aller ni à droite ni à gauche, il faut que Jéricho soit renversé, il faut que la ville soit par terre, donc on ne peut pas aller plus loin. Mais ils le disent, à notre entrée dans le pays, tu vas faire une chose, et ça c'est une belle chose. C'est une préfiguration du salut. C'est un type d'avant-garde, si vous voulez, de ce qui se passera des milliers d'années plus tard, dans une ville qui s'appelle Jérusalem, sur un pont qui s'appelle Golgotha, où celui qui a dit « Nous donnerons notre vie, je donnerai votre vie pour vous », celui qui a dit cela, est monté sur une croix et il a été mis à port, mis à mort. Et on peut dire, si nous ne voulons pas tirer trop sur le sens des choses, il est sorti de son corps un filet de sang comme un cordon écarlate. Écoutez bien. À notre entrée dans le pays, attache cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Voilà. Un cordon écarlate. Le cordon écarlate, ça vaut la peine quand même d'en parler. Parce que quand on parle du Nouveau Testament, c'est toujours une histoire qui nous annonce une histoire encore plus belle, le Nouveau Testament. Je l'ai dit, je le répète, l'Ancien Testament, c'est le bourgeon. Le Nouveau Testament, c'est la fleur qui éclot. Toute la révélation nous est donnée de toutes ces choses qui sont cachées dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancienne Alliance, apparaît d'une manière merveilleuse et surnaturelle dans le Nouveau Testament. Et là, nous comprenons la signification du plan de salut de Dieu. Nous comprenons le sens de l'amour de Dieu. Nous comprenons toute la dimension et les perspectives de ce salut qui n'est ni plus ni moins qu'un salut éternel. Le cordon écarlate accroché à la fenêtre, dont les espions demandent à Rahab de mettre. Alors il sera le signe de salut. Je répète, il sera pour tout Israël et pour Rahab et sa famille le signe de, salut, ça semble un moyen tellement insignifiant qui pourtant évoque ce que Dieu a choisi comme remède pour notre état de péché. Et le remède universel pour notre état de péché, pour notre misère, pour notre perdition, pour notre corruption, pour que nous soyons sauvés, eh bien, ça a été une croix. Anticipée par ce cordon écarlate, ce fil écarlate, mais c'était tout simplement une croix qui pouvait faire dire, peut-être à tous ceux qui voyaient, en disant, mais tiens, nous sommes passés devant la maison de Rab, elle a mis un cordon, qu'est-ce que ça signifie? Les gens ne pouvaient pas comprendre. Comme aujourd'hui, pour beaucoup, ils se disent, mais une croix, ça sert à quoi? Quelle vieille histoire! Ça sert à quoi? C'est dérisoire. Souvent, c'est un objet de superstition pour certains. Pour d'autres, ils se diront, bon, c'est tout simplement un objet de religieux, mais quel sens ça peut avoir? En tous les cas, quand on a compris l'appel de Dieu, quand on a compris notre misère et notre situation, alors ça revient à un autre sens. Oui, Jésus était accroché à une croix. Là, c'était ce cordon qui était accroché à la fenêtre. Et par son sacrifice, il sauve quiconque. Il les sauve de leur condamnation. Mais il faut une condition, c'est y croire. Parce que Rahab aurait pu dire, dites donc, vous moquez de moi, mettre tout simplement là un cordon à ma fenêtre. Mais vous pouvez rigoler, c'est pas comme ça que je vais être sauvé. Elle aurait pu dire, mais écoutez, j'ai bien entendu, mais je ne vais pas le mettre. Eh bien, c'est ça, tout simplement. Si on croit, on obéit. Si on ne croit pas, ben, on n'est pas obligé d'oublier, naturellement. Mais les résultats ne sont pas tout à fait les mêmes. Et la couleur choisie, écarlate, cramoisie, ça c'est la couleur du sang. Couleur du sang qui rappelle aux Israélites d'hier, du temps de Josué, qui devait rappeler aux Israélites une vieille histoire qui n'était pas si vieille, 40 ans avant, quand ils sont sortis d'Égypte, le sang de l'agneau pascal, et dont on avait badigeonné les linteaux de porte, les montants de porte, pour les préserver de l'extermination. Vous savez ce que c'est? C'est l'histoire de la Pâque. Voilà. Alors, c'était ça pour la Pâque, c'était ça à Jéricho, plus tard à Golgotha, ça sera une croix, ça sera toujours une croix, de toute façon. À la différence, c'est que un homme est mort à la croix. Il n'est pas mort pour lui-même, il est mort pour tous. Le fil rouge, le fil écarlate, avec cette réserve. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, de tout ce que tu auras assemblé, ton père, ta mère, tes frères, et ça, s'il sort, alors à ce moment-là, ils seront coupables de leur propre mort. Parce que pour être sauvé, il faut rester dans la maison. Et vous savez, je voudrais vous dire que pour être sauvé, il faut rester dans la foi. Il n'y a pas d'autre situation. Il faut rester en Jésus-Christ. Il faut rester là dans la présence où Dieu se trouve pour nous protéger. Les Israélites, au moment de la Pâque, fallait qu'ils restent dans la maison pour que lorsque l'exterminateur est passé sur le pays d'Égypte pour tuer, pour exterminer tous les premiers-nés d'Égypte, y compris le fils de Pharaon, fallait qu'il soit dans la maison. Celui qui était dehors, il va y passer aussi. Eh bien, c'est exactement la même chose, le salut de Dieu qui nous est donné aujourd'hui. Il faut rester en Jésus-Christ. Il faut rester dans sa parole. Il faut rester dans la foi. Et à ce moment-là, nous irons jusqu'au bout. Et nous verrons le salut de Dieu. Tout simplement. Alors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si l'on met la main sur un quelconque de ta famille que nous tuons, alors ce sera nous qui serons responsables. Parce qu'on n'aura pas respecté le signe du cordon, du sang, en quelque sorte. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Parce qu'elle aurait pu se dire, ah, ben, après tout, bon, j'ai bien entendu ce qu'il me demande, un cordon, que je reste là, que je rassemble ma famille. Puis au bout d'un certain temps, elle commence à réfléchir, peut-être sous la pression des gens de la ville de Jéricho, elle se dit, ben, moi je vais changer d'avis, après tout, je dis tout. Hein. Ben, elle aurait passé finalement à l'extermination comme les autres. Hein. Elle a su garder ce qu'elle avait reçu. Et si nous savons garder ce que la parole de Dieu nous donne, eh bien, nous sommes sauvés. Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On l'a vu dernièrement. Alors elle a répondu, qu'il en soit fait selon vos paroles. Vous savez, on a une parole quand on est chrétien, quand on est enfant de Dieu, quand on veut servir le Seigneur, quand on veut être disciple. Qu'il en soit fait selon ta parole. Et on ne revient pas, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et ça ne va pas plus loin. Alors elle a pris congé d'eux, et ils s'en sont allés, et il nous est dit dans une petite phrase sibylline, et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Elle l'a fait. Ça, c'est formidable. Elle aurait pu se contenter d'autre chose, mais elle l'a fait. Alors ces hommes sont partis. Ces deux espions sont partis. Ils ont quitté Jéricho, hein, et les a descendus par la muraille, on l'a vu tout à l'heure. Et ils arrivèrent à la montagne, et ils sont restés là 3 jours jusqu'à ce que les soldats du roi de Jéricho les finissent de les poursuivre. Et ceux qui les poursuivaient les cherchèrent dans toute la région, mais ils ne les trouvèrent pas, évidemment. On a compris pourquoi. Les deux hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, le chef d'armée d'Israël, pour lui faire le bilan de leur incursion dans la ville de Jéricho. Alors ils sont arrivés auprès de Josué et ils lui racontèrent tout ce qui était arrivé. Et ils lui ont dit ceci, « Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains et même tous les habitants tremblent devant nous. » Josué, quand il a vu ça, il a dit certainement, quand il a entendu ça, il a dû dire, « Ben voilà, merci Seigneur, tu nous ouvres la porte. La ville de Jéricho va s'écrouler et nous allons pouvoir maintenant rentrer enfin après 400, près de 500 ans. » Oui, près de 500 ans. Vous connaissez l'histoire ? 500 ans d'exil, de déportation, dans ce terrible pays de souffrance et de servitude qu'est l'Égypte. Parce que j'ajoute ces 430 ans, plus les 40 ans, ça va pas être 500 ans. Nous allons pouvoir enfin fouler le pied de ce pays que Dieu nous a donné, avait donné à nos pères les patriarches, ce pays où coule le lait et le miel. Et ça s'est fait à bras étendus, et ça s'est fait par un miracle de foi. Et quand Josué a dû entendre ça, il a dit, voilà, maintenant, eh bien, on va se poster devant Jéricho, et simplement pour terminer la conclusion, on ouvre tout simplement le chapitre 6 de votre Bible, du livre de Josué, et nous allons voir comment ça s'est passé. Il nous a dit que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël, personne ne sortait, personne n'entrait. Si, il y en a deux qui sont rentrés, et deux qui sont sortis, ce sont les espions. Mais je ne veux pas faire le commentaire de la bataille de Jéricho, on le reverra peut-être à une autre fois, mais toujours est-il qu'à un moment donné, vous savez comment ça s'est passé. Dieu a dit, et ça devait faire rire ceux qui étaient sur la muraille, ceux qui étaient encerclés, Dieu a dit, voilà, vous allez faire le tour de la ville une fois, vous allez faire une deuxième fois, deuxième jour, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, le septième jour, vous ferez 7 fois le tour, et vous verrez les murailles vont s'écrouler. Les gens qui étaient en train de regarder, les gens de Jéricho, qui étaient en train de regarder ça, ils disaient, mais ils sont tombés sur la tête, on n'a jamais fait la guerre de cette manière, en tournant autour d'une ville, et puis en chantant des cantiques, et en sonnant de la trompette. Et ça s'est fait une première fois. Le premier jour, ils se sont dit, ça va vraiment pas le deuxième jour, ils devaient être pliés de rire, en disant, mais c'est pas une chose. Mais la septième fois, surtout le septième tour, à un moment donné, il s'est passé une chose, c'est que toute cette forteresse, ce bastion, cette citadelle imprenable, nous l'en avons lu tout à l'heure, qui était bardée de fer, dont personne ne pouvait entrer et sortir, à un moment donné, elle s'est effondrée sur elle-même. Et toutes les armées, tous les soldats d'Israël ont fait l'assaut, ils sont montés sur les pierres qui étaient écroulées, ils ont vaincu la citadelle, le roi de Jéricho, et quand ils sont arrivés à la maison de Rahab, ils ont vu le fil rouge, le cordon écarlate, et vous savez ce qu'il nous est dit ? La ville a été dévouée par interdit, elle et tous ceux qui s'y trouvent, mais on laissa la vie à Rahab, la prostituée, à tous ceux qui étaient avec elle dans la maison. Josué laissa la vie à Rahab, la maison de son père et tous ceux qui lui appartenaient. Écoutez la suite, parce qu'elle est très belle. En parlant de Rahab, elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers de Josué, des messagers de Josué qu'il avait envoyés pour explorer Jéricho. Conclusion. Elle a été sauvée par sa foi. Elle a été sauvée parce qu'elle croyait. Elle et les siens échappent à la mort. Ils sont les seuls survivants de la catastrophe de Jéricho. Elle devient une véritable Israélite puisqu'elle nous est dit, elle habite au milieu d'Israël. Fini le mensonge, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Elle est devenue une véritable Israélite, bien qu'elle soit une ex-prostituée. Permettez-moi de l'ajouter, Dieu n'est pas venu chercher des saints pour en faire ses enfants et ses disciples. Il est venu chercher des gens qui étaient dans la corruption, la misère, pour en faire, oui, vraiment des hommes transformés, changés. L'ex-prostituée va devenir une femme de Dieu, une véritable Israélite. Et, c'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible qui le dit. C'est la même histoire que Ruth. Elle épouse un Hébreu qui deviendra l'ancêtre du roi David, lui-même ascendant de Jésus le Sauveur. Jésus, le fil rouge, qui sauve de la mort et qui nous apprend qu'on ne peut échapper à la mort qu'en se confiant totalement en lui. Voilà la conclusion. Parce que si vous regardez dans l'évangile de Matthieu, que vous regardiez la généalogie de Jésus, il nous est parlé, oh, peut-être en 2 secondes, nous pouvons tourner quelques pages dans notre Bible, parce que c'est intéressant. Vous savez, rien n'est laissé au hasard dans la Bible. C'est quelque chose de formidable. Écoutez, il nous est dit dans le chapitre 1er, généalogie de Jésus-Christ, il nous est dit que à un moment donné, au verset 4, Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Ça vous dit, ça vous rappelle quelque chose, hein? Boaz de Rahab, c'est elle. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Et à un moment donné, nous arrivons à Jésus. Je dis que l'histoire biblique est quelque chose, une histoire merveilleuse et magnifique. Oui. Qui nous rappelle ce que Paul nous dit, que parmi les enfants de Dieu, il n'y a pas beaucoup de sages, il n'y a pas beaucoup de forts, il n'y a pas beaucoup de gens, ceci, cela. Mais qu'il a choisi les choses folles du monde pour confondre les fortes. Il a choisi les choses faibles du monde pour mettre les fortes par terre. Celles qui ne sont pas, celles qui n'ont aucune élévation, ceux qui n'ont aucune vertu, eh bien, il était les chercher pour en faire finalement des saints pour nous dans notre temps, des chrétiens, des hommes et des femmes de Dieu. Alors que Dieu nous bénisse. En tous les cas, c'est une belle histoire. Vous vous souviendrez du cordon écarlate, du fil rouge. Et ce fil rouge, on le revoit encore à travers le sang de Jésus qui a souffert pour nous, qui a donné sa vie. Et dans cela, nous pouvons dire, c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Guéris physiquement, guéris moralement et guéris spirituellement. En tout, il nous sauve. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier maintenant. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Nous savons, Seigneur, que lorsque nous ouvrons, Seigneur, le livre, eh bien, nous nous apercevons, Seigneur, qu'il y a des choses que nous pouvons lire, c'est vrai, mais qui ne sont pas toujours faciles à comprendre parce que tout cela est inséré dans une histoire qui n'est pas la nôtre, qui n'est plus la nôtre, et qui est pourtant, Seigneur, celle dont tu veux nous faire comprendre que c'est aussi, Seigneur, pourquoi Jésus est mort, pour nous sauver. Et nous savons que c'est la même histoire. Alors, je te demande de nous visiter, Seigneur, pour nous qui entendons ta parole, pour nous qui avons entendu ce message, pour nous qui voulons le recevoir, pour nous qui voulons l'accepter, Seigneur, permets que sur notre cœur il y ait ce cordon écarlate qui nous ramène toujours à considérer que, en effet, quelqu'un, eh bien, a ôté, Seigneur, notre condamnation. La condamnation, c'était la mort, mais à cause, Seigneur, de notre foi, dans ce que Jésus a accompli, Seigneur, sur la croix du calvaire, eh bien, nous savons qu'aujourd'hui, Seigneur, nous passons outre. C'est la Pâque tous les jours pour chacun d'entre nous. Nous sommes épargnés, alors nous voulons le comprendre comme tel. Oh Seigneur, donne-nous la foi d'une Rahab. Quelle qu'était notre vie, Seigneur, même si nous avons eu une vie, Seigneur, mauvaise, parfois dépravée, corrompue, Seigneur, une vie souillée, peu importe, c'est pas ce que tu regardes. Tu ne regardes pas à ce que nous étions, tu regardes à ce que tu veux que nous devenions. Mais Seigneur, nous pouvons le devenir, Seigneur, sans ta grâce, et surtout, sans, en effet, Seigneur, sans véritablement croire à ta grâce, parce que Seigneur, c'est elle qui nous sauve. Augmente notre foi, donne-nous une grande foi et que ce soir, cette parole entendue, elle fasse du bien, Seigneur, et que nous puissions résolument prendre position, même si toute la ville de Jéricho est contre nous, même si nous avons autour de nous des murailles, même si nous croyons à certaines défenses, à certaines choses, Seigneur, qui pourraient nous extraire, Seigneur, du péril et de la mort, nous savons que tout cela, ça ne vaut rien. Tout cela va s'écrouler un jour ou l'autre. Le seul secours que nous avons, c'est de tourner nos cœurs et nos regards vers Jésus qui nous sauve parfaitement, complètement, totalement, éternellement. Merci, Jésus. Amen. Amen.